Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. Quel est le sens de la vie? La recherche du sens de ma vie. Qu'est-ce qui peut y faire obstacle? C'est par ces questions, au terme d'une année, pendant le temps de vacances, alors qu'on prépare déjà l'année qui va venir, que je souhaiterais que nous menions notre méditation. D'ailleurs, un manuel de catéchisme suisse, qui s'appelle Grimpe Caté, que je viens de trouver dans le bureau de Charlotte, a pour titre « Un sens à ta vie ». Le sens. Le mot a deux origines. L'une latine, sensus, qui vient du mot sentir. Ainsi, l'on va de sentir avec ses cinq sens, la vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût, jusqu'à la faculté de juger, la sagesse, le jugement pratique, une sorte de finesse d'esprit, et parfois même un peu de ruse. Le sens peut aussi être compris en termes de connaissance, une connaissance technique. Il a le sens de l'informatique. Puis encore comme une manière de voir, de considérer les choses. On dira à quelqu'un « j'abonde dans ton sens ». Ou une qualité supérieure pour percevoir les choses, le sixième sens, celui qui dépasse ce que j'ai rappelé. Puis enfin, le contenu intellectuel auquel tout simplement renvoie un signe. L'autre origine du mot est allemande et elle indique la direction que l'on prend. Mais de plus, depuis le XVIIIe siècle, on dit de sens qu'il est une capacité, une aptitude à percevoir une catégorie de valeurs. On parlera du sens moral, du sens pratique, du sens esthétique. Alors quand je pose les questions, quel est le sens de la vie? Quel sens est-ce que je donne à ma vie? Quand j'agis, est-ce que mes actes ont du sens? Je peux utiliser bien des orientations suggérées par cette petite recherche étymologique. En consultant les écrits bibliques, j'ai trouvé presque toutes les définitions que je viens de vous donner, sauf la dernière, celle du XVIIIe siècle. Cette aptitude à percevoir une catégorie de valeurs. Alors, je suis allée me renseigner un petit peu chez quelques philosophes ou penseurs. Schopenhauer écrit que le souci constitutif de toute vie humaine est celui de son sens. Nietzsche est assez nébuleux. Il ne pense pas que qui que ce soit de vivant puisse parler du sens de la vie, puisqu'il est vivant lui-même, mais que, quand il est mort, il ne peut évidemment plus en parler. Cependant, il pense que tout homme peut faire quelque chose de sa vie, faire des choix, donner un sens aux actes de sa vie, donc j'en déduis, donner un sens à sa vie. Albert Camus, lui, estime que c'est la question première, mais qu'il n'y a aucune obligation à un lien au religieux pour que la vie ait un sens. Pour d'autres, certains philosophes grecs très anciens, la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est interrogée, si elle est examinée. J'arrêterai là mon petit panorama. Je note qu'il semble donc bien important à tout moment de sa vie de se poser cette question de savoir quel est le sens que l'on veut donner à sa vie. Il s'agit bien d'y penser et de bien y penser, car ce sont nos choix, nos prises de position, de responsabilité, nos actes qui vont marquer notre vie et celle des autres, qui vont répondre à cet examen de vie que l'on peut faire à tout moment. Bien souvent, c'est au soir d'une vie que se posent ces questions, qui ne sont pas des bilans, non, mais des retours simplement. Ai-je vécu ma vie? Ou bien, Me suis-je laissé vivre par le temps qui passe sans en avoir conscience? Les actes et les décisions de ma vie ont-ils été accomplis par devoir, par choix, clairement assumés, décidés? Ou bien avait-il quelque chose de neuf, de nouveau, d'imprévu venant du fond de moi, m'étonnant même parfois? Nous sommes tous différents et je pense qu'il y aurait autant de réponses différentes parmi nous tous si nous répondions tout de suite à ces questions. Alors reprenons le texte de Matthieu et constatons qu'il est lui aussi construit autour de questions. La première est celle de Jean. Est-ce bien toi, celui qui vient? Jean ne dit pas celui que nous attendons, mais il dit celui qui vient. Ainsi est-il question d'entrer dans une dynamique avec celui qui vient, et non seulement de penser que, ça y est, tout va changer, tout est changé, puisqu'il est là, et qu'on ne l'attend plus. Tout. N'oublie-t-on pas que l'on fait soi-même partie de ce tout? Le danger serait d'oublier que nous sommes inclus dans ce tout qui change, qui est changé ou qui doit changer. La venue du Messie implique un changement radical de chacun quand il ne doute pas de cette venue. Et il est vrai que du fond de sa prison, Jean a semblé douter. Jésus s'occupe des malheureux, certes, mais est-ce bien là ce qui est attendu du Messie? Ne devrait-il pas manifester sa puissance avec force? Mais Jésus répond en invoquant les changements immédiats dont sont bénéficiaires tous les pauvres, les petits, les malheureux, ceux qui sont chargés de lourds fardeaux de misère. Heureux, celui pour qui je ne serai pas une cause de chute, dit Jésus. Heureux, celui qui n'aura pas mal directement par moi, que je ne jugerai ni ne condamnerai, mais que je remettrai debout, qui percevra et accueillera le sens de ce que je lui offre. Mais aussi, heureux celui qui me suivra, vivra de cette bonne nouvelle sans en tordre le sens, comme certains ont pu tordre la loi avant la venue de Jésus. Et c'est ainsi que Jésus, avec une forme de violence, interroge les foules, comme on s'interroge pour vérifier la validité de ses choix. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Pourquoi donc vous êtes-vous déplacé? On ne va pas voir seulement Jean le prophète. On ne rencontre pas non plus seulement Jésus juste pour voir, juste pour être guéri. Jean tourne les pas de ceux qui vont le voir vers Jésus. Jésus les offre à son Père, à Dieu. Mais dans chacun des deux cas, la liberté est laissée à chacun. Choix à faire pour lui, exigeant, choix qui perturbe et qui retourne toute la vie de celui ou de celle qui le fait. Dire « je crois ». Dire « je crois », c'est se lancer dans une vie construite tout autrement que celle que l'on vivait avant de dire « je crois ». Et c'est là qu'intervient cette notion du sens de notre vie. Est-elle notre vie un catalogue de règles que nous suivons au mieux, une éthique de vie? Ou au contraire est-elle notre vie sans obligation de se conformer à des règles, mais avec d'assez forts points d'ancrage, tels le respect de l'être humain, le désir de partager avec l'autre, la louange qui monte à Dieu. Que ce soit l'une et l'autre, ou bien encore d'autres modèles de vie, Paul nous rappelle que le lien entre Christ l'Esprit de Dieu et chacun de nous réside dans l'accomplissement de la justice. Justice. Ce qui est juste et c'est ce qui est correctement adapté, justement adapté. Alors Jésus dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Dans cette phrase, il ne met pas en cause l'intelligence, la sagesse, comme si d'ailleurs les tout petits n'étaient pas eux-mêmes intelligents et sages, raisonnables. Ce serait horrible de penser ça. Mais il soulève les obstacles possibles venant de ceux qui se disent posséder ces qualités de sagesse et d'intelligence. Quels obstacles ? Pour ceux dont parlent les textes bibliques, mais surtout pour nous, je vais vous en donner quelques-uns. La paresse. La paresse qui nous fait ranger nos engagements spirituels, souvent seulement entre 10h et midi le dimanche, dans nos semaines chargées, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. J'étais au Sénégal il y a 2 ans. Et j'étais invitée à prêcher dans le fin fond de la brousse. C'était le fond, le plus fond de la brousse. Il n'y avait plus de route après. Et j'ai vu des Sénégalais et des Sénégalaises faire des heures de marche dans la brousse, sous la canicule, pour assister à un culte. Chanter, danser. Puis repartir pour des heures de marche à nouveau. Le dimanche, pour eux, était tout entier consacré à la manifestation de leur amour pour Dieu. Autre obstacle, notre conviction, surtout pour nous protestants, que notre lien individuel à Dieu nous permettrait de délaisser la vie communautaire, la laissant aux autres, vous savez, ceux qui en ont besoin. Autre obstacle, notre infidélité à la fidélité de Dieu qui transformerait nos paroisses en associations que plus rien ne différencierait des autres associations, vous savez, celles que l'on dit culturelles, avec le R en plus, si nous ne trouvons pas quel sens leur donner. Et cela nous rattrape vite, chacun. Vous ne me verrez pas au temple, madame, sauf pour les baptêmes, les mariages et les enterrements. J'ai trop de choses à faire. Oh, vous savez, moi, dans le temps, j'étais catéchumène du pasteur X. Ah, lui, c'était un pasteur. Ça, c'est vachement sympa pour celle qui parle. Je ne viens pas car moi, je crois que je n'ai pas besoin du temple, comme les autres qui vivent d'ailleurs si désarmant de ce qu'ils confessent. Aidez les exclus, vous n'y pensez pas, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Combien de fois ai-je entendu ces phrases dans des discussions, mais aussi sans doute combien de fois moi-même dans ma vie en ai-je proféré. Nous ne sommes pas à l'abri, aucun de nous, de ces phrases-là. Alors réfléchissons, venir retrouver d'autres personnes au temple, nombreux comme ce matin, c'est tout d'abord répondre à une invitation de Dieu. Aimer son prochain, c'est un élan du cœur porté par l'Esprit de Dieu et pas seulement une obligation morale. Participer à la vie spirituelle de la communauté, c'est se laisser saisir par le regard de Dieu dans la présence du frère. Participer à la vie matérielle aussi, tout à l'heure il y aura l'offrande de la communauté, c'est refuser qu'un jour il n'y ait plus de lieu de témoignage et d'annonce de la parole. Se laisser interpeller par les textes bibliques pendant le culte ou pendant des réunions que l'on accepte de rejoindre, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir, tout connaître, de ne pas déjà avoir tout compris, mais aussi, et c'est plus difficile, accepter que la parole écrite dans la Bible, tout autant que la parole de notre voisin, puisse être dérangeante et remettre nos choix de vie en question. C'est ainsi que les obstacles au sens, à ce qui peut faire sens dans notre vie, seraient peut-être réduits à la facilité de nos vies. La facilité de nos vies ne nous range pas du côté des tout-petits dont parle Jésus. Ils sont les boiteux, les aveugles, les sourds, les malades, les rejetés, les sans-papiers, les sans-domicile fixe, les détenus dans les prisons. Ce sont eux vers qui Jésus porte tout d'abord et tout naturellement son regard, son aide, son secours. Ce sont eux sur lesquels il pose l'amour de Dieu. Et eux reçoivent et comprennent qu'ils ne pourront jamais être mal avec lui, derrière lui, à ses côtés. Eux se rangent sous son joug, acceptent de le servir, car ils savent combien son amour les porte, les supporte. Ceux qui découvrent la richesse de l'amour, la joie de vivre avec des frères, suivent Jésus. Eux non plus ne chuteront pas en le suivant. C'est pour nous, les bien nantis la plupart du temps de notre époque, que j'ai le plus peur. Saurons-nous un jour dire réellement oui à Christ? Et non pas oui, mais là peut-être se trouve toute la question du sens que nous voulons donner à notre vie. Acceptons-nous d'être aimés de Dieu et de conformer notre vie à cet amour? Amen.